Orchestre radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
venez vous asseoir, mon ami.
Si Douce-Grosselle va s'asseoir. Armand lui tend la main avec le sourire. Il lui demande,
comment allez-vous? Très bien, monsieur. Et votre fille, elle aussi. Elle va bien, mais elle est un peu émue. Vous connaissez les femmes, enfin, les jeunes filles.
L'autre lui dit,
oui, pour elle, le mariage, c'est quelque chose de très important, plus que pour nous les hommes.
Grosselle lui dit,
oui.
L'autre lui dit,
moi aussi, c'est très important. Alors, nous allons unir nos enfants. Nous allons leur offrir un lit, un nid plutôt, bien douillet. Moi j'ai qu'un fils, et il hérite de tout. Moi aussi, je n'ai qu'une fille. Oui, mais avant que nous décidions qu'allons-nous faire pour eux.
De Courcelles lui dit,
je leur donnerai une pension et leur achèterai un logement. C'est déjà bien. Et vous? Moi aussi, je donnerai une pension à mon fils. Et je leur donnerai aussi ma maison que j'ai à Deauville.
Courcelles demande.
Et que compte faire votre fils pour gagner sa vie? Il trouvera bien quelque chose. Et puis, avec les actions que je vais lui donner, il faudra qu'il les fasse fructifier. Le Courcelles lui dit. Voilà, je crois que c'est suffisant.
Maman lui dit,
s'ils ont des enfants, il faudra leur donner quelque chose aussi à eux. Je leur donnerai une partie de mes parts que j'ai dans mes affaires.
Maman lui dit,
bon bien, nous sommes d'accord pour mettre tout ça sur du papier chez le notaire. J'aimerais que nos deux enfants héritent de tout, bien entendu.
Et ils sont allés chez le notaire signer tout ça. Ils décident de ne rien dire aux deux amoureux. Courcelles se dit qu'il faut qu'il se méfie. Son fils ne fait rien. Il ne faut pas qu'il ruine sa fille. Lui. Alors il mettra sur le contrat que sa fille aura une certaine somme en plus, mais n'en parlera pas. Ils vont se marier tous les deux. Tout ira bien. Les jours passent. Le père décide, c'est de préparer tout de même une soirée pour annoncer les fiançailles. Ça va créer beaucoup de soucis et des frais. Et en plus, il se sent très fatigué. Il aimerait mieux aller se reposer quelque part. Alors, comme il peut, il prépare tout ça. les invitations. Le traiteur, etc., etc. Il invite aussi, il met aussi dans ses invitations des connaissances d'affaires, parce que comme il n'a pas de famille, il a pas des gens en plus. Pour le traiteur, le fleuriste et tout, il a une idée. C'est qui décide, c'est que pour annoncer les fiançailles, on lancera des milliers de pétales de roses sur les invités dans le parc. Ça fera chic et bien. Il prépare tout ça avec sa gouvernante. Il est satisfait. Il est allé voir le notaire. Et il a donné à sa fille, fait un don à sa fille, sans que personne ne le sache, un don suffisamment confortable. Comme ça, si son futur ne travaille pas, elle ne craindra pas d'être dans le besoin. La soirée a lieu chez les Mercache, mais c'est de Courcelles qui a tout préparé. France, et tout est cité. Mais ce n'est qu'une soirée. Enfin, elle essaye de se dire que ce n'est qu'une soirée. Son fiancé se trouve près d'elle. Elle a mis sa robe blanche avec des brillants argent. Tout est somptueux. Les invités sont nombreux. Le fiancé est aussi avec son père. Tout se passe bien. Au milieu de la nuit, le père fait arrêter la musique, l'orchestre, et annonce la nouvelle. Tout le monde applaudit et félicite les mariés. Des roses tombent du ciel. Au milieu, dans un fond de ciel noir, apparaît des pétales de rose. C'est un côté féerique.
Vraiment beau.
Edmond, c'est un côté féerique.
Vraiment beau.
Edmond demande à Florence. Tu es heureuse ? Elle lui répond, oui. Mais, non, elle n'est pas très heureuse. Elle a peur de l'avenir. Oui,
Elle a peur. Elle a peur. De son père. Elle a peur d'elle-même qu'elle ne connaît pas. Et puis, elle se sent lasse. Très lasse. Très très lasse. La suite de la soirée se passe comme dans un brouillard. Enfin, tout est fini. Tout le monde dit au revoir. Florence ne se tient plus. Son père la maintient. Une fois que tout le monde est parti, au milieu des déchets de la fête, verres de bouteilles, cassés, assiettes sales, des pétales de roses dans le parc, chaises renversées, tables aussi, les serveurs en silence rangent tout ça. Vont en avoir pour des jours et des jours à ramasser tous ces pétales. Florence, son père, Edmond, son père, sont assis en cercle sur des chaises dans le parc, désert. À part les serviteurs qui font leur travail en silence. Maman dit, voilà une belle fête, c'est fini. Il ne reste plus qu'à attendre pour le mariage. Enfin, la prochaine fois, ce sera chez vous. De Courcelles lui dit, oui, bien sûr. Il se sent là et aimerait aller se coucher. Il leur dit, je crois qu'il est le temps d'aller se coucher. Ils se lèvent tous et leur accompagne le père et la fille à leur voiture. Avant d'aller à sa voiture, il demande à Florence, tu es heureuse? Elle lui dit, oui, mais fatiguée. Il l'embrasse sur la joue. Il tend la main et tend la main de Courcelles. Tout à coup, Florence dit, j'ai oublié ma pochette sur la chaise. Encore ? Et elle s'en retourne. En courant, tout à coup, elle tombe nez à nez sur un serveur. Un jeune un homme dans les 23 ans, grand, mince, blond, les yeux bleus, et sursaute. Il lui dit, bonjour Flore, tu me reconnais? Mais je m'appelle pas Flore, je suis Florence. Il le regarde d'un air coquin et montre la main qu'il a derrière son dos. Car il porte à la main sa pochette, puis la lui tend et s'en retourne, terrifié. Flore, comme Frédéric. Flore, mais qui est Flore ? lorsqu'elle retrouve son père dans la voiture, il la trouve pâle. Il lui demande, qu'as-tu ? Je ne sais pas. J'ai la fatigue et aussi l'émotion. Oui, je crois, c'est qu'il te faut te reposer maintenant, jusqu'à ton mariage. Tu ne fais plus rien. Elle lui dit, le mariage ? Oui, bien sûr, le mariage de Florence. Le père lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais même pas moi-même. Montre-moi la bague qui t'a offerte. Et elle lui montre, elle est très jolie. Il le regarde et lui dit, toi aussi, tu as l'air fatigué. Il lui dit, oui, très fatigué. Florence ne sait plus où elle en est et qui elle est. Elle pense constamment à Frédéric et à ce jeune serveur. Elle se dit que si au moins elle pouvait retrouver la mémoire. Elle rêve au serveur et à Frédéric et à ses cris d'angoisse. Déjeuner, son père s'aperçoit qu'elle n'est pas bien. Il lui dit d'aller se coucher, il appelle le docteur Morel qui lui fait une piqûre.
A-t-il eu une contrariété ? J'ai fêté ses fiançailles hier au soir. Peut-être que la soirée a duré trop longtemps.
Docteur demande à Florence.
J'avais eu une contrariété hier au soir, ma chérie.
Elle ne lui dit rien. Elle est déjà dans le cirage parce que la piqûre commence à faire son effet.
Qui est Fleur ?
Elle a demandé qui était Fleur. Ils se regardent tous deux. Inquiet, le père pâlit. Le docteur demande,
quelle est cette personne ?
Le père lui dit,
elle s'appelle Florence, Florence, Flore, ça se ressemble, a-t-elle perdu la mémoire encore une fois ?
Le docteur se penche vers Florence et lui demande,
savez-vous qui je suis ?
Elle lui dit,
docteur Morel,
pourquoi est-ce que vous demandez qui est Flore ?
Parce que je ne sais pas qui elle est.
Non plus, vous appelez Florence et non Fleur. Ces deux noms se ressemblent et vous pouvez s'y les confondre.
Vous pouvez vous tromper aussi. Ça ne vous inquiète pas.
C'est pas inquiétant ça. Composez-vous. Et il la laisse. Elle se dit qu'ils ont peut-être raison. Le serveur a peut-être dû se tromper. Mais Frédéric, lui non. Puisqu'il a dit des choses sur Fleur qui n'avaient rien à voir avec elle. Oui. Ou ce qu'elle croit être. Tandis que le serveur a pu se tromper de prénom. Et Frédéric, non. mais ne parle plus de Fleur et en la laisse se reposer. Le père est inquiet et se demande qu'il a appelé Fleur et pourquoi. Maman et son fils. Sur la terrasse et prennent leur petit déjeuner. Armand dit à son fils :
va falloir te marier
avec cette petite le plus vite possible. Je crains qu'elle ne change d'avis. Le regard surpris.
Pourquoi changerait-elle d'avis, père?
Peut-être que son père ne veut plus qu'elle se marie. Tu sais, j'ai appris des choses, enfin, une chose. Mais ne le dis plus à personne, surtout pas à elle. Tu me le promets?
Oui, père.
Son père est très malade. Et comme tous les hommes malades, il tient très certainement à garder sa fille près de lui.
Edmond lui dit : mais il a accepté de me donner sa main.
C'était avant qu'il ne le sache.
Edmond sous ses épaules lui dit : nous marierons après son décès. Voilà tout.
Elle peut changer d'avis. Les filles sont des girouettes.
Pas elle.
Il peut ne plus vouloir qu'elle se marie et le lui faire promettre.
Le fils regarde son père et lui dit :
tu supposes beaucoup de choses. On dirait que c'est toi qui ne veux plus de ce mariage.
Bien au contraire, mon fils. Mais il faut se tenir sur ses gardes et tout prévoir, même le pire. Tu ne connais pas ces gens.
Toi non plus?
Plus que toi.
Maintenant tu me dis que ce ne sont pas des gens bien. Il y a peut-être quelques jours, tu me disais le contraire.
Père lui dit : je disais ça, c'est pour te faire plaisir. Et parce que le mariage, j'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à ce mariage. Et je sais que toi aussi, tu y tiens beaucoup.
Edmond, énervé, lui demande :
alors, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Vous êtes contre et vous voulez me marier. Pourtant, la personne la plus à plaindre dans tout ça, c'est bien elle. Elle ne sait pas qui elle va épouser. Et j'en ai honte. Mais moi, je l'aime. Et je sais qu'elle m'aime. Et si elle savait, elle ne m'épouserait peut-être pas. Et dire que je vais l'épouser malgré le mal que je vais lui faire.
Le père lui dit : c'est pas de ta faute.
Je ne sais plus. Et si vous me dites que ce mariage n'est pas bon, je m'inclinerai. Cela voudra dire que Dieu ne veut pas que je fasse du mal à cette jeune fille pure et douce et qui m'aime sans rien savoir. Mon mariage est peut-être un parjure. C'est presque un parjure. C'est un parjure.
Père lui dit : ne dis pas de bêtises.
Et mon lui dit : je lui dis que vous n'oubliez pas de ce mariage.
Non, je n'ai pas dit que je ne voulais pas. J'ai dit que je voulais qu'il se fasse le plus rapidement possible pour éviter que le père ne change d'avis. Mais je tiens absolument à ce mariage, plus qu'à tout. Mais Je ne veux pas. Il ne faut pas rêver. Tu ne connais pas ces gens. Ils ne sont pas aussi bien que tu ne le crois.
Alors pourquoi? S'ils ne sont pas si bien, pourquoi vouloir me marier?
Père lui dit. Encore un secret. Je vais te le dire. Lui aussi, tu ne diras rien. Même pas à la fille.
Parlez, père.
Bien, voilà. Il y a quelques années, j'ai eu de grosses difficultés financières, très grosses. Jusqu'à ce que mes amis m'aient conseillé un placement. J'ai appris qu'il avait fait exprès de proposer ce placement pour me ruiner. Et cet ami, c'était de Courcelles.
Et mon ami, et maintenant, tu me donnes sa fille? C'est ridicule.
Non, c'est la vérité. Là, tu m'humilies vers celui qui l'a oublié. Et moi non. Lorsque j'ai appris que tu voulais te marier avec sa fille, j'ai de suite dit oui. Je lui ai dit que je pouvais me venger et prendre sa fortune par l'intermédiaire de sa fille. C'est pour ça que je tiens à ce mariage. Et vous lui dites, c'est ridicule.
Comment a-t-il pu t'oublier?
Il n'a sûrement pas oublié mes petits. Il est très malin, tu sais.
Et pourquoi? A-t-il accepté les fiançailles?
Peut-être veut-il encore m'humilier en annulant le mariage, en disant à tous ne peut accepter que sa fille se marie avec un garçon comme toi, et en dévoilant tout. Il ne faut pas qu'il annule la chose. Il faut que tu te maries le plus vite possible.
Et mon lui dit, je ne crois pas à toutes ces histoires. C'est ridicule.
Tu verras.
Mais Edmond est inquiet parce qu'il aime vraiment Fleur, Hans. Lendemain après-midi, il sonne chez les deux Courcelles. Domestique le mène vers le père qui est au salon.
Lui dit, ma fille. Est très souffrante et ne peut vous recevoir. Il s'en retourne, penaud.
Triste, inquiet, retourne chez son père. Il lui dit,
son père lui dit, une jeune fille qui refuse de voir son fiancé. C'est la preuve qu'il ne veut plus J'avais raison, tu vois. Le fils se dit que oui. Il a mal. Il a peur de perdre Florence. Il a peur d'être humilié et que tout le monde sache qui il est. Il demande à son père. Que faire ? Son père lui répond.
Si elle veut toujours, il faut la mettre de notre côté et la séparer de son père.
Mais comment ?
En la mettant avec nous. Dès que tu peux. La voir, essaye de savoir si elle est toujours d'accord. Et si elle est d'accord, on l'isole de son père.
Florence reste dans son lit. Il donne des médicaments pour qu'elle se repose. Elle ne peut penser et se laisse aller. Son père vient la voir souvent et lui demande comment elle va. Elle lui répond qu'elle va mieux. Que dire ? Elle ne peut réfléchir. Puis un jour, elle se sent mieux et on l'amène au jardin marcher un peu. Le docteur Morel lui a dit que c'est la perte de sa mémoire qui lui fait rechercher et qu'elle croit à plusieurs suppositions. Il a suffi de quelqu'un l'appelle par un autre prénom pour qu'elle en croie, se croie une autre. Elle se dit qu'il y a autre chose. Frédéric. Lui, c'est plus vrai. Et lui, il n'y a pas que le prénom. Et puis, elle sent que tout ce qui l'entoure ne lui disent rien. Même son père ne lui dit rien. Bien sûr, elle le cache pour ne pas lui faire de la peine. Quelque chose lui dit qu'au fond d'elle-même, elle n'a pas les mêmes goûts que cette fille sage qu'on veut qu'elle soit. On la force à boire et à avoir une vie qui ne lui convient pas. Elle, elle sent à elle un besoin d'horizon, de course effrénée, de liberté. La maison, les livres, la vie d'une fille modèle, non. Tant elle fait des efforts et cache ce qu'elle aime vraiment pour ne pas leur faire de la peine. Même à son fiancé. Parce qu'elle a peur de les faire moucher. Mais, dès qu'ils vivront ensemble, elle lui dira petit à petit qui elle est vraiment. Elle a honte de lui mentir et de lui faire croire qu'elle est une fille qu'elle n'est pas. Mais elle ne peut faire autrement. Et puis tout le monde lui dit qu'elle est cette fille bien sage. Tout lui est étrangère. Même son écriture. Elle ne se reconnaît pas dans les photographies. Les photographies d'elle avant son accident. Il est vrai, comme le visage a été touché, on a été obligé, c'est de le modifier un peu. Au début, elle a bien vu que les gens se forçaient pour la reconnaître. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas la seule à ne pas se reconnaître. Les gens ont bien été obligés, par politesse et gentillesse, de la reconnaître, mais
on sent réellement, disons, des difficultés, et puis l'ont-elles réellement reconnu? Son père lui a montré une photographie de sa mère. Ça ne l'a rien dit. Il est vrai qu'elle ne l'a pas vraiment connue. Mais elle a dû voir ses photographies souvent. Si on lui disait qu'elle n'est pas ce qu'on lui dit, elle n'en serait pas surprise. Elle se dit que peut-être le mariage et l'éloignement doivent faire qu'elle redevienne elle-même. Elle-même, que ce soit avec une nouvelle identité ou cette identité. Et puis qu'importe, du moment que l'on soit sa mère. Mais là, elle n'est même pas elle-même, elle n'est rien. Et peut-être aussi à cause de ce médicament qu'on lui donne constamment. Elle se dit que le bon docteur Morel fait son beurre en venant la voir tous les jours. Un jour, elle dit à son père,
« Comment voulez-vous que je retrouve la mémoire si elle m'abrutit constamment ? C'est peut-être à cause de ces drogues qui fait que je ne peux me sentir bien parce que j'ai des difficultés à penser librement. » Il lui répond, « Le médecin sait ce qu'il a fait. Nous verrons plus tard. Pour le moment, tu es trop énervé. Et puis, il faut que tu sois bien pour ton mariage, ma chérie. » Elle lui dit, « Oui, mon mariage. Tu veux toujours te marier ? Oui. Réfléchis bien. Tu sais que tu vas entrer dans une famille qui a eu des difficultés financières et que ton futur n'a pas
Vous l'avez dit, père, mais il n'a jamais cherché de travail. Et puis, il a son père. Il est très dépensier. Il me regarde surprise et il me demande, pourquoi me parlez-vous de tout ça? C'est vous qui ne voulez plus? Mais non, c'est ridicule. Il réfléchit bien. Elle voit. Que son père semble un peu réticent. Elle veut ce mariage pour être libre, être elle-même. Adieu le médecin. C'est souvenir qu'il ne lui dise rien. Elle se rétablit petit à petit. Inquiète, va à ses nouvelles toutes les semaines. Son père lui dit qu'elle est toujours lasse et qu'elle va mieux. Le père d'Edmond lui dit,
dès que tu la vois, tu essayes de savoir si elle veut toujours son mariage. Si elle te dit oui, c'est que c'est son père qui ne veut plus pour m'humilier. Alors, il va falloir s'éloigner la fille de son père.
Edmond est triste et se dit que son histoire d'amour, son amour devient malgré lui et malgré son père un craquenard. Contre celle qu'il aime. Oui, il va, malgré lui,
lui tendre un piège à sa bien-aimée. Ça le dégoûte. Il se dégoûte. Mais son père lui dit,
tu sais, le peu de temps que tu as à être heureux, on peut dire que tes jours sont comptés.
Il lui crie, père, je vous en prie.
Si tu crois que je n'en souffre pas autant que toi, je t'aime. Je veux que tu connaisses le bonheur, même par le mariage. Oui, même par le mariage.
Edmond voudrait que tout ça s'arrête. Il est tiraillé, troublé. Et puis, ces chants-là, ces visites rue Saint-Jacques, lui font de moins en moins du bien. La femme lui dit que c'est parce qu'il ne se détend pas assez durant les séances. Séance, si on peut appeler ça comme ça. Un après-midi, enfin, le père de Florence accepte qu'il la voie. Il lui dit,
elle est dans le parc, derrière la maison, allez-y.
Il y va, heureux et inquiet. La retrouve en robe blanche qui marche sur un chemin boisé. Il la trouve très belle. Lorsqu'elle le voit, elle accourt à lui et lui dit « Enfin !» Il la prend dans ses bras, l'embrasse et dit « Oui, enfin !» Ton père a bien voulu que je te voie. Je suis venu toutes les semaines. Il ne voulait pas que nous nous voyions. Elle lui dit, je ne savais pas. Il m'en a rien dit de tes visites. Edmond est inquiet et lui demande, tu crois qu'il ne veut plus de notre mariage? Elle lui dit, je ne crois pas, mais il est très étrange ces derniers temps. Elle lui dit, je vois. Et toi, tu veux toujours m'épouser? Elle lui dit, oui, bien sûr. Il soupire de soulagement et lui dit, j'ai eu si peur, si tu savais. Elle lui dit, tu n'as pas à avoir peur, puisque je t'aime. Moi aussi. Comment vas-tu? Elle lui dit, mieux, enfin, je crois que j'aurai tout à fait bien une fois mariée. Je crois que j'ai besoin de vivre ailleurs qu'ici. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Si, mais je ne suis pas chez moi. Il lui dit, oui, je comprends. Tu es chez ton père. Il y a plus que ça. Il l'embrasse sur la joue et lui dit, tu dois avoir besoin de changer d'air, faire une bonne convalescence. Elle lui dit, peut-être, j'ai une idée. Nous avons une petite maison à Deauville. Très bien. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas bien loin de Paris. Et puis le train y va. Je crois que les marins pourra te faire du bien. Tu veux, tu pourrais y passer quelque temps. Et puis, je te ferai des visites. Ça te permettra de te refaire une santé. Elle lui demande, toute seule? Non. Il y a ma bonne grand-mère, une vieille dame de 80 ans, qui va être toute heureuse de connaître sa petite fille. Elle est très douce, tu sais. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, je voudrais... Oui. Saute bien. Et lui demande, alors. Et puis je viendrai souvent, tu veux? Elle lui dit. Cela m'enchante. Il me changera les idées. Il faut que j'en parle à mon père. Et lui dit, oui bien sûr, il faut vite. Il faut qu'il soit revenu avant le mariage.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.